Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, votre émission pour commenter l'actualité chaque jour du lundi au vendredi sur la radio africaine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans le JDA, nous posons cette question: comment lutter contre l'impunité des multinationales? Plusieurs associations ont mis en demeure la compagnie pétrolière Total pour manque de vigilance concernant ses activités en Ouganda, des activités qui donnent lieu à des expropriations et des risques élevés de pollution. Alors qu'en pensez-vous et comment contraindre les multinationales à respecter les droits sociaux, économiques, environnementaux, et cela partout dans le monde? Nous en parlerons avec Thomas Borrell, il est porte-parole de l'association Survie, l'une des ONG qui a mis en demeure Total. Pour participer à l'émission, nous donner votre avis, poser vos questions à notre invité, appelez-nous dès maintenant au 33 1 55 07 58 00, 33 1 55 07 58 00. Avant cela, je vous propose bien sûr d'écouter quelques messages que vous nous avez laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour, Madame Hartmann. Bonjour, les amis de JDA, le peuple africain et tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Oh, le léopard, vous êtes un grand. Vous êtes un grand, le léopard. C'est pas encore fini. Malgré des défaites avec l'Égypte et l'Ouganda, mais nous pouvons gagner le match par 3 ou 4 buts pour remonter encore jouer le 8e de finale. Oh, tout le peuple congolais sont derrière vous. Nous sommes derrière vous, les léopards. Allez-y, les léopards. Nous allons gagner. Vous savez que les léopards ne se fatiguent jamais. Et nous ne sommes pas des chars du peuple qui se fatigue. Nous sommes des combattants. Nous nous battons toujours. Et comme nous nous battons pour la libération de la RDC, et nous disons, les léopards, vas-y, nous allons arrêter Kabila et sera jugé.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous les auditeurs d'Africa Radio. Bon, là, on est comme en train de suivre la CAN tous. Donc, je voudrais dire ceci. Depuis que la CAN a commencé, c'est hier que j'ai regardé un match, et qu'on peut dire un match de football, avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie, et pour les joueurs, et pour nous qui regardions. Donc, ça, c'était vraiment un match. Si on devait parler du match Zimbabwe-Ouganda, franchement, ça, c'était un match de compétition. Et donc, j'espère que ce soir, on va vivre la même chose entre le Sénégal et l'Algérie, parce qu'on peut imaginer les deux équipes, comment qu'elles sont. Elles sont déjà grandes, et l'équipe de compétition. Donc, je souhaiterais qu'elles nous livrent un match vraiment de football. Je sais qu'il y a du jeu de part et d'autre. Donc, que ce soit vraiment comme le match d'hier. Franchement, je me rappelle au Ouganda chapeau, c'était un match vraiment. Un vrai match. Et le stade aussi était presque à moitié plein. Mais je dirais que franchement, c'était super bien. C'est le premier match que j'ai vu qui m'a beaucoup intéressé en tant que passionné du foot. Donc on souhaite que les deuxième tour de ces matchs, cette CAN, que tous les matchs se ressemblent comme celui du Zimbabwe au Ouganda. Bon, ok. On fait comme ça et bonne CAN à tous. Et allez les Lions de la Teranga ce soir, battez-moi les Algériens. Pour que ça demande pas ce que William, au revoir.
Bonjour, chers auditeurs. Au Congo-Brazzaville, nous avons les écuries qui commencent à se préparer aux élections présidentielles, sachant que la crise est énorme, que qui devront nous choisir entre ceux qui font rêver, ceux qui ont déjà été dans le système ou qui ont contribué directement dans le système, sont à l'origine de cette manque de la satisfaction des besoins fondamentaux, qui est une forme de guerre sociale, économique et culturelle.
Bonjour les amis du JDA, c'est Touré. Nous savons que dans beaucoup de pays en Afrique, les élections étaient une farce, bien sûr. Mais le cas mauritanien est encore pire. Parce que ce qui est intriguant dans le cas du Mauritanie, c'est que le gagnant, toujours dans les films, il faut qu'il soit un mort blanc, pas noir. C'est ce qui est intriguant dans l'affaire, qui n'est pas normal. Et pour que ce candidat, toujours les films mauritaniens, il faut que le seul qui gagne toujours, on a même empêché la diaspora mauritanienne du Mali, du Sénégal, de voter pour que le gagnant soit toujours le même. Le temps qu'on arrive à mettre fin à tout ça, Est-ce que le la Mauritanie sait que vraiment les choses comme ça sont dépassées? Finalement, il faut se mettre devant la réalité et poser les vraies questions au lieu d'accuser à gauche, à droite, de l'extérieur. Le problème vient de l'intérieur, ce n'est pas de l'extérieur. Merci Africa Radio. Bonne journée.
Ma très chère Atman, bonjour. Les multinationales telles que Total sont un vrai problème pour les pays africains. 1. Les employés sont très très mal payés. De 2. Ils ne respectent pas les règles environnementales. Ce qui ne peut pas se permettre ici en Europe, précisément en France, c'est ce qu'ils font dans nos pays africains. Ils n'ont aucun respect des droits de l'homme dans nos États africains. Et depuis mon enfance, j'ai entendu parler que ces multinationales étaient des bras séculiers des pouvoirs, des politiques françaises. J'ai entendu parler que ce sont ces mêmes multinationales qui finançaient des coups d'État en Afrique lorsque leurs intérêts sont menacés par des pouvoirs en place. C'est vraiment un vrai problème qu'on doit prendre à bras le corps. Idriss, bonne journée.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages aujourd'hui dans le journal des auditeurs. Comment lutter contre l'impunité des multinationales? Et nous en parlons avec en studio Thomas Borrell. Thomas Borrell, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de l'association Survie, l'une des ONG qui a mis en demeure Total. Donc, rappel des faits, Survie et 5 autres associations, donc plusieurs associations ougandaises, ont mis en demeure la compagnie pétrolière Total pour ses activités en Ouganda, grâce notamment à une loi votée en France et promulguée en mars 2017. Alors avant de parler de cette loi, un mot peut-être sur le projet qui est incriminé par la mise en demeure, le projet Tilenga en Ouganda, et projet dont Total est le principal opérateur. En quoi consiste ce projet?
Oui, ben merci. Effectivement, il y a même deux projets. Il y a le projet Tilenga, qui est un méga projet pétrolier d'exploitation, en réalité de 200 000 barils de pétrole par jour. Pour donner une idée aux auditeurs, c'est plus que la production actuelle du Gabon. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une explosion là, de la production pétrolière. Ça, c'est le projet Tilenga et ça va entraîner de graves conséquences potentiellement sur l'environnement parce qu'on est en partie sur un parc naturel et puis pour les populations locales qui sont expropriées. Et puis, il y a le deuxième projet qui fait partie aussi de la mise en demeure qui est un oléoduc qui va faire plus de 1445 km d'un oléoduc chauffé à l'électricité pour transporter un pétrole visqueux et qui doit traverser une partie de l'Ouganda, mais aussi en Tanzanie jusqu'à l'océan pour alimenter ensuite des tankers. Donc les deux projets en tout, ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes qui seront affectées.
On voit bien effectivement les risques d'un tel projet pétrolier. Alors grâce à la nouvelle loi sur le devoir de vigilance des multinationales promulguée en mars 2017 en France, Total doit publier un plan de vigilance. Alors, si j'ai bien compris, il s'agit de relever précisément les risques liés au projet, de présenter des mesures compensatoires. Problème, le plan présenté par Total demeure largement insuffisant, c'est bien ça?
Oui, alors cette loi, c'est le résultat d'une mobilisation de la société civile et notamment des Amis de la Terre France, avec qui on est aussi dans cette mise en demeure, pour permettre en fait, d'avoir un outil contraignant pour une société mère en France par rapport aux activités de ses filiales à l'étranger. Parce que ça peut paraître bizarre, mais une filiale, il y a un lien économique, mais il n'y a pas de lien juridique. Et jusqu'à cette loi, on n'avait pas de moyen en fait, de s'en prendre aux sociétés mères ici quand leur filiale avait des activités avec des conséquences sur l'environnement ou sur les droits humains. Donc là, effectivement, cette loi, après, elle est sans doute insuffisante. Ça va aussi être un cas test par rapport à cette première utilisation dans le cadre d'une activité à l'étranger. Mais elle doit effectivement, la société mère doit publier un plan de vigilance, c'est-à-dire un plan dans lequel elle identifie, comme vous l'avez dit, les différents risques et les mesures qu'elle va mettre en œuvre pour limiter l'impact par rapport à ces risques. Et nous, ce qu'on montre dans la mise en demeure, c'est d'une part que ce plan est insuffisant, il identifie mal les risques, les mesures sont insuffisantes, et puis qu'on a déjà des impacts qu'on a constatés avec des preuves qu'on a collectées, et c'est là-dessus qu'on met en demeure Total de nous répondre avant de saisir un juge.
On va vous laisser vous reprendre votre souffle, mon cher Thomas. On va écouter Samo dans quelques instants. Mais effectivement, hein, vous dites, hein, les conséquences de son projet ont déjà commencé, par exemple, et je trouve ça aberrant. On a déjà interdit aux populations de cultiver la terre, mais en échange, on fait des livraisons de nourriture. On reviendra peut-être là-dessus dans quelques instants. On va écouter Samo. Samo, bonjour.
Oui, bonjour, madame.
Bonjour, Samo. Bienvenue dans le journal des auditeurs.
Merci.
Alors, votre regard sur ce projet.
Ben, en fait, c'est toujours, c'est l'égoïsme des Africains, en fait, qu'il faut pointer. Parce que quand les multinationales viennent s'installer, elles signent des contrats, avec qui? Avec le gouvernement en place. Donc, ça sert à rien de chaque fois indexer l'extérieur. Ça dépend de nos gouvernants sur place. Je prends le cas du Pourbeau Kouala en Côte d'Ivoire, par exemple. Je sais pas si vous vous rappelez de l'histoire.
Tout à fait.
Ils ont déversé des tonnes de produits.
Déchets toxiques dans la lagune.
Et ouais, déchets toxiques. Ça, c'est dû à quoi? À l'égoïsme des dirigeants. Ils ont regardé les poches. Ils ont voulu encaisser de l'argent vite fait là. Mais voilà les conséquences. C'est pareil en fait. C'est toujours la même histoire. C'est l'égoïsme de nos dirigeants.
Vous renvoyez la responsabilité politique, hein, finalement, aux dirigeants. C'est pas inintéressant, ça, ce que notre auditeur... C'est jamais inintéressant, d'ailleurs, ce que les auditeurs disent, excusez-moi. C'est pas inintéressant ce que dit Samo. En effet, Thomas Borrell, comment la justice française, finalement, peut-elle agir là où l'État ougandais est responsable et quasiment souverain? Après tout, n'est-ce pas l'État ougandais de vérifier et de contrôler les projets sur son territoire? Ah, pardon, j'ai oublié de vous rouvrir votre micro. Allez-y.
Si, évidemment, le premier moyen d'agir, ça serait effectivement de saisir la justice en Ouganda. Et on a nos partenaires là-bas, les quatre organisations ougandaises qui sont avec nous dans la mise en demeure ici en France, qui ont intenté un certain nombre de recours, mais qui subissent des pressions, voire de la répression, quand ils essaient de se mobiliser. Donc, évidemment que la première priorité, la première responsabilité peut être d'agir sur place. Mais quand on constate que ça ne marche pas, parce qu'on n'a finalement pas d'institutions suffisamment fortes et des dirigeants finalement qui ne tiennent pas compte des intérêts de leur population, il faut aussi s'interroger de pourquoi ces dirigeants sont arrivés au pouvoir, par qui ils ont été soutenus et comment ils se retrouvent aujourd'hui à favoriser les intérêts de ces multinationales. Et en clair, finalement, il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs et on ne peut pas uniquement pointer du doigt les corrompus sans regarder qui sont les corrupteurs. Et donc, ce n'est pas un problème ça, africain, c'est un problème finalement humain, on le retrouve partout ailleurs, on le retrouve également en France. Simplement, ça peut prendre du temps et il faut se mobiliser. Et dans le cas des mobilisations en Afrique, elles ont très souvent existé. Mais elles ont été finalement réprimées avec, bien souvent, malheureusement, le soutien de la France. Donc c'est là aussi que mon association Survie pointe notre responsabilité et le besoin d'agir ici en France sur cette question qui, comme l'a dit Samo, concerne évidemment au premier chef les Africains eux-mêmes.
Alors on va lire quelques messages sur Facebook. Il y a Christian depuis le chat qui nous dit bonjour. Hein. La main qui donne est au-dessus de celle qui la reçoit. Nous vivons sur une planète de corruption. Nos autorités doivent contraindre ces multinationales à respecter ces droits. Si le constat est contraire, la faute incombe à nos dirigeants. Hein, ce que venait dire Samo. Et Kabiloté lui répond, Christian, face à des puissantes multinationales, il faut un système judiciaire fort et crédible. Personne ne doit être au-dessus de la loi, mais malheureusement on est contraint de vivre dans des pays africains où très souvent les hommes de pouvoir sont forts, les institutions judiciaires et législatives sont très faibles. Ça reprend exactement ce dont on vient de parler. La difficulté n'est-elle pas aussi, Thomas Borrell, que c'est malgré l'institution d'une loi qui a vu le jour grâce à l'activisme de la société civile, la difficulté n'est-elle pas aussi que ces multinationales peuvent davantage, en tout cas plus que les ONG ou particuliers, supporter les coûts d'une action en justice qui peut être longue et parfois difficile?
Oui, alors on sait là que c'est le pot de terre contre le pot de fer, ou c'est l'histoire toujours de David et Goliath. Évidemment, il y a des moyens disproportionnés, mais tout l'enjeu finalement de la construction du droit, la construction d'outils juridiques et de la construction de mobilisation autour de ça, parce qu'il ne faut pas s'en remettre uniquement aux tribunaux, mais il faut bien construire des mobilisations et faire parler de ce cas aussi à cette occasion, et c'est ce qu'on fait en ce moment même. L'enjeu, effectivement, c'est de contrer et d'aller finalement contrebalancer ce déséquilibre de moyens financiers et de pouvoir sur ces questions-là. Et puis, pour revenir juste sur la question d'un système judiciaire fort et crédible, ça fait écho aussi à des mobilisations en ce moment même, au-delà de cette loi en France qui est une première mondiale, d'avoir un outil contraignant, cette fois à l'échelle internationale. Il y a un traité à l'ONU, en cours de négociation, qu'on aimerait voir aboutir, et les Amis de la Terre, nos partenaires dans cette mise en demeure, sont très actifs d'ailleurs là-dessus, pour obtenir un traité contraignant pour les multinationales, et c'est-à-dire étendre finalement cet outil juridique qu'on a en France, arriver à avoir un outil multilatéral. C'est le vieux rêve d'une justice internationale. On a vu avec le cas de la Cour pénale internationale, et les Africains le savent, que ça peut être largement dévoyé, mais il n'est pas interdit de pousser dans le sens quand même de certains outils qui nous permettraient cette fois d'agir contre les multinationales, notamment occidentales, qui interviennent en Afrique.
Alors justement, il y a Thierno qui nous dit ceci sur Facebook. Et en Guinée, l'État a déguerpi ses citoyens au profit des multinationales dans la zone de Boké, à l'est de Conakry. La zone de Boké, à l'est de Conakry, est envahie par les sociétés minières qui sont en train de faire n'importe quoi dans cette région avec la complicité de l'État. Les cultivateurs n'ont plus lieu pour faire leur san. Je ne sais pas ce que veut dire san, mais j'imagine que c'est une question de culture. La question que j'allais vous poser, est-ce que cette loi française peut toucher d'autres multinationales, ou il faut que ces multinationales aient un siège social en France ?
Alors, pas nécessairement le siège social. Par contre, il y a des effets de seuil. Il faut avoir un certain nombre de salariés. Effectivement, et donc pour les sociétés qui ont leur seuil, leur siège social en France, c'est le cas de Total, le seuil est plus bas, il est, si je ne me trompe pas, de 5000 salariés de par le monde, donc on est largement au-delà pour Total, puisque Total c'est plus de 100 000 salariés de par le monde, mais des sociétés par exemple états-uniennes ou même chinoises ou autres qui auraient une filiale en France pourraient aussi être inquiétées si elles dépassent d'autres seuils qui sont cette fois de 10 000 salariés. Donc l'outil permet d'agir en France, pas uniquement contre les multinationales françaises. Par contre, il ne permet d'agir qu'en France, puisque c'est un outil législatif français qu'on a arraché et que nos partenaires ici ont arraché. Mais par contre, il n'est pas interdit d'espérer, encore une fois, qu'on pourra élargir ça. Et on a beaucoup de partenaires ailleurs en Europe, notamment, qui prennent exemple sur cette loi et qui disent qu'il faudrait démultiplier ça dans d'autres pays.
J'allais vous poser la question aussi, dans quelle mesure la justice française pourra-t-elle contraindre Total à respecter ses engagements? Justement, vous dites qu'on peut agir qu'en France, et de quels moyens dispose-t-elle pour les vérifier?
Alors ça, c'est le vrai problème, et c'est pour ça que je disais au début de notre discussion que ça va aussi être un test. C'est le premier test en grandeur nature, parce qu'effectivement, si dans 3 mois, Total n'a pas, ne s'est pas conformé à notre mise en demeure, c'est-à-dire n'a pas corrigé son plan de vigilance, n'a pas corrigé à la fois l'identification des risques et les mesures mises en place, effectivement, nous saisirons un juge des référés, qui devra finalement voir si oui ou non Total, ce que Total a fourni comme réponse est satisfaisant. Mais ce juge ne pourra pas se rendre sur place. Et il devra finalement comparer les preuves que nous allons lui fournir et les éléments que Total lui fournira. Donc ça, c'est effectivement une limite qu'on peut avoir. Et puis, par rapport à la manière d'obliger Total de s'y conformer, là-dessus, il y a un outil prévu dans la loi qui est une astreinte financière, c'est-à-dire une condamnation à une amende. Tant que Total ne se conforme pas, si le juge nous donne raison, alors il peut condamner Total à payer une forme d'amende
chaque jour pour non-respect.
En attendant que de s'y conformer. Par contre, avant que les montants soient suffisants pour faire plier Total, on peut s'interroger. Mais encore une fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas penser uniquement une mesure juridique déconnectée finalement de la mobilisation. C'est aussi l'occasion d'en parler et de faire plier Total par le fait qu'aujourd'hui, tout le monde, on espère, s'intéresse à ce qui se passe en Ouganda et dans les autres pays où cette multinationale exploite du gaz ou du pétrole.
Merci Thomas Ballin. On va écouter Abdel qui nous écoute depuis le Canada. Bonjour Abdel.
Oui, bonjour Madame Stéphanie, comment allez-vous?
Je vais très bien, et vous-même?
Oui, je veux savoir comment vous savourez la canicule chez vous en ce moment.
Bah, vous savez, moi j'ai un côté sahélien, donc le chaud ne me dérange absolument pas du tout. Au contraire.
Bon. Quand même, une pensée quand même pour tous ceux qui sont en train de subir ces effets-là en ce moment-là.
Merci, c'est gentil Abdel, pensez à nous. On pense à vous beaucoup quand il fait moins 40 chez vous.
Mais oui, là aussi, on se peut aussi dire la chaleur maintenant. Là, on a le beau soleil, c'est le beau temps, la belle saison. Et on en profite.
C'était la minute météo. Pardon.
Oui. Merci, oui, c'est le quotidien. Écoute, pour le sujet, c'est vraiment dommage que c'est toujours l'Afrique qui reste toujours derrière dans toutes choses. Un continent qui a tellement de ressources, mais se fait exploiter par les multinationales qui n'hésitent pas à créer l'Afrique comme un dépotoir de déchets. Pour eux, tout passe nécessaire, c'est qu'ils puissent exploiter ce qu'ils veulent et laissent tout ce qui est mauvais pour l'Afrique. Et nous avons des dirigeants qui ne prennent jamais l'exemple, qui ne prennent jamais l'avance pour aller voir dorénavant comment on va faire pour tenu compte de notre environnement, tenu compte de notre population, encore que ces populations-là n'ont jamais le retour de l'exploitation de ces ressources minières. On a vu qu'on a découvert le pétrole au Tchad, c'était un engouement. Aujourd'hui, là, le Tchad, malgré le pétrole, ils ont des problèmes. Qu'est-ce qui est la solution pour l'Afrique? On ne sait pas. Parce que l'impunité, la corruption, c'est ça qui règne. Nous avons vu au Québec, ici, là, on n'a pas de pétrole, mais les gens, ils ont des ressources, l'eau, c'est ça qui les soit, il faut l'hydro et l'électricité. Ils refusent même que le pétrole des d'autres provinces passe sur leur territoire parce qu'ils veulent sauver l'environnement. Donc, il faut que nos dirigeants, qu'ils soient vraiment vigilants avec les multinationales. Ce qu'ils ne peuvent pas faire ailleurs, ils ne doivent pas pouvoir le faire en Afrique. Ils ne doivent pas le faire en Afrique. C'est comme ça, là, parce qu'il y a déjà les normes qu'on peut aller chercher ailleurs pour imposer. S'ils imposent ces normes-là à toute personne, ça doit permettre à ce qu'on puisse souffrir, on puisse savoir que nous sommes considérés dans tout ce qui se fait à côté de nous et pour nous. Mais qu'on ne vient pas exploiter, parce qu'on a vu des gens, ils sont même capables de venir prendre les déchets nucléaires ailleurs pour venir déverser en Afrique. Il suffit de corrompre les dirigeants, ce qui est impossible ailleurs. Nous avons vu même aujourd'hui dans le Canada des problèmes parce qu'ils envoient ces déchets en Chine et parce qu'ils ne font pas de bons tri. La Chine est en train de retourner des cargaisons de déchets dans tous ces pays-là qui les ont exploités, ces déchets-là. Donc, tous les pays doivent être aux aguets maintenant pour faire la surveillance parce que personne n'a doit se dire pour la personne. Pendant que d'autres vivent aisément ailleurs, oui.
Non, Abdel, j'allais conclure votre propos en disant finalement ce que vous dites, c'est que il faut les mêmes normes pour tout le monde. Merci beaucoup, Abdel, hein, de votre contribution. On va finir avec Egodé, bonjour. On va finir.
Oui, pas. Bonjour.
Bonjour, Egodé.
Oui, bonjour. Merci de m'avoir donné la parole. En fait, moi, comme je disais...
Coupez votre radio, Egodé, ça se peut que vous ayez un petit écho, c'est peut-être ce qui vous gêne pour parler.
Oui, là, j'ai éteint.
Voilà. Allez-y.
Ouais, donc, je disais, déjà, je félicite votre invité, parce qu'il m'apparaît de quelqu'un d'intelligent, qui connaît son dossier, tout ça. Mais je voulais dire que ça, c'est un problème qui a deux volets. Il y a le volet visible de ce qu'il est en train de parler, et le volet invisible. Ou même lui-même, il maîtrise pas ce volet-là.
Invisible, vous parlez quoi, des forces invisibles ou des choses qu'on nous cache?
Oui, des choses qu'on nous cache. Ah. Même lui-même, même quand ils iront au tribunal ou chez le juge, il sera surpris de ce qu'il va rencontrer là-bas. Vraiment, mon frère, je sais que tu connais tes dossiers, mais il y a le volet, c'est surtout ça, le volet invisible qu'on devrait parler. Parce que, déjà, c'est un problème gouvernemental, comme a dit mon collègue qui a parlé tout à l'heure. Mm-hmm. Déjà, Total, ça fait longtemps qu'ils sont en Afrique. Ça fait longtemps qu'ils se sont posés ces questions-là que vous êtes en train de parler. Donc, ils ont déjà leur solution.
Là, ils sont plus forts, quoi. On ne peut pas lutter contre Total. C'est ce que vous êtes en train de dire, Egodé.
Non, mais en fait, on ne lutte pas contre Total. On lutte, lui, le monsieur qui est là.
Contre un État.
Mais, oui, c'est contre les États.
Alors, c'est intéressant, Egodé. Vous me permettez de faire le lien avec un auditeur qui avait un message tout à l'heure sur le répondeur. Je crois que c'est Idriss qui dit « Ah oui, les multinationales... ont des liens avec la France-Afrique, et la France-Afrique, c'est votre truc à survie. » Et Idriss a posé cette question, il disait « Moi, j'ai entendu dire que les multinationales ont parfois financé des coups d'État, alors ça nous fait peut-être penser à ce qu'il y a eu au Congo, où Elf a pu avoir financé largement la guerre civile. Thomas, c'est bien ça ?»
Oui, ben, effectivement, c'est aussi ce que disait Godet quand il dit que Total est en Afrique depuis longtemps. C'est que le Total actuel, c'est finalement l'héritage à la fois de la petite Total jusqu'en 99-2000, qui a absorbé la grosse Elf en plein scandale politico-financier. Et donc, c'est cet héritage aussi de la France-Afrique que Total a repris à son compte et qui lui permet aujourd'hui de s'étendre d'ailleurs sur le continent africain et ailleurs dans le monde. C'est un avantage pour Total. Et aujourd'hui, Total, c'est la quatrième majeure, ce qu'on appelle les majeures, c'est-à-dire entreprise pétrolière et gazière au monde. Donc, c'est évidemment un monstre. Alors, pour revenir vite fait sur l'histoire, effectivement, Elf, c'était d'ailleurs, je crois, un député qui le disait, ou c'était dans le procès Elf, de dire finalement, pendant la guerre au Congo, qu'on a appelé guerre du Congo-Brazzaville, mais qui était en fait un putsch financé par Elf et appuyé par la France, Elf avait même financé les balles des deux camps pour être sûr de s'assurer finalement les bonnes grâces du vainqueur. Donc, c'est grâce à Elf que Sassou Nguesso a repris le pouvoir, et il est toujours au pouvoir aujourd'hui au Congo-Brazzaville, malheureusement pour les Congolais, congolaise. Et on sait que c'est cet héritage. Alors, pour revenir sur ce que disait Godet sur le volet invisible et qu'on ne maîtrise pas.
En disant, voilà, c'est aussi des mutations qui ont le soutien de leur État.
Mais bien sûr, mais qui ont aussi à la fois des. On a parlé tout à l'heure du pouvoir, ou en tout cas des moyens financiers pour aller en justice. Mais il y a aussi la dimension, et on l'a vu avec l'affaire Elf, à un moment où on touche à quelque chose de trop sensible, la capacité de l'institution judiciaire, y compris en France, à s'auto-censurer. Et on le voit en ce moment, pour les gens qui suivent Survie, on travaille sur un autre dossier qui est dans l'actualité, c'est Bicécéro au Rwanda, où là, ça fait une plainte depuis 14 ans qui est en train d'être enterrée par la justice française. Donc on ne se fait pas forcément d'illusions sur le fait qu'il suffirait d'engager cette démarche pour parvenir à nos fins. Par contre, il faut utiliser cet outil aussi dans une logique, comme je le disais tout à l'heure, de le tester, de le renforcer et finalement de construire des contre-pouvoirs. Et c'est ça qui fait démocratie, c'est l'effectivité qu'on peut avoir des contre-pouvoirs. C'est la capacité à aller contre l'arbitraire. Et ça, c'est un mouvement permanent. C'est pas par un claquement de doigts, c'est un processus qui se fait dans le temps long et sur lequel on agit aussi par cette action judiciaire contre Total et les différentes formes de soutien qu'elle pourrait avoir, y compris dans le monde politique ou judiciaire en France.
Et finalement, ce n'est pas parce que le combat paraît de David contre Goliath qu'il ne faut pas le mener. Il nous reste 3 minutes, un peu de temps, 33 1 55 07 58 00 si vous voulez participer. Il y a une autre affaire qui a fait la une fin mai, Thomas Borrell, c'est 10 ONG et syndicats dont Sherpa ont assigné en justice l'entreprise Bolloré pour obtenir l'application de mesures améliorant les conditions de vie de travailleurs et riverains des plantations d'huile de palme au Cameroun. On parle de la Socalpa et Socfin qui sont peut-être pas des filiales mais en tout cas des entreprises dans lesquelles le groupe Bolloré a des actions. Est-ce que ce type d'affaire peut être aussi la loi promulguée en 2017, cette affaire peut rentrer dans le cadre de cette loi?
Alors, cette affaire-là, la démarche judiciaire-là n'entre pas dans le cadre de cette loi, puisque effectivement, c'est la suite d'un processus qui avait engagé ces ONG, le REACT, Sherpa, puis avec des partenaires au Cameroun, en Allemagne,
qui avait saisi notamment l'OCDE.
Voilà, qui avait saisi l'OCDE, et sur la base des engagements de Bolloré, qui disent, finalement, Bolloré n'a pas respecté ses engagements, et donc on l'attaque pour non-respect de ses engagements contractuels. Donc c'est aussi très intéressant dans ce que ça va entraîner, et c'est aussi une manière de renforcer le droit que d'agir de cette façon-là. Par contre, il est vrai que la loi dont on parle, que nous on a utilisé là pour Total, peut s'appliquer à d'autres grands groupes. Ça pourrait être le cas de Bolloré, ça pourrait être le cas d'autres grands groupes français notamment qui sont en Afrique ou ailleurs. Et là je réponds à ce que disait Abdel qui disait c'est en Afrique quelque part qu'il y a tous les problèmes.
Oui aussi.
Non, si on prend Total a des casseroles, il nous appelait du Canada. Total a des casseroles au Canada justement. Mmh. Total a des casseroles en France. Si vous prenez le groupe la catastrophe AZF.
Oui. Dans le sud de la France, à
dans
Toulouse.
Dans le sud de la France, en 2001, il y a eu aussi un problème juridique. Et cette loi actuelle permettrait, y compris pour une filiale en France, comme ça, de combler finalement une lacune juridique. Donc là-dessus, effectivement, cette loi, on espère qu'elle va servir dans d'autres cas. On espère que d'autres ONG travaillent. On le sait d'ailleurs que certaines travaillent sur certains cas. Et il va falloir l'utiliser pour, encore une fois, la tester et la renforcer.
Ça permet aussi de mettre à jour ces problèmes et d'en parler, notamment pour aussi mobiliser les opinions. C'est important aussi que les opinions soient mobilisées pour faire, on va dire, pencher la balance. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup Thomas Borrell d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'association Survie. Merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à continuer le débat sur notre page Facebook, facebook.com/journaldesauditeurs, ou sur le répondeur d'Africa Radio. Le numéro du répondeur, notez-le bien, c'est le 33 1 55 07 58 05. 33 1 55 07 58 05. Laissez vos messages à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions de sujets sur ce répondeur. On se retrouve demain, vendredi, pour une nouvelle édition du JDA. Justement, demain, ce sera la libre antenne. On pourra revenir sur ce sujet, mais aussi sur bien d'autres. En attendant, prenez grand soin de vous à l'écoute d'Africa Radio, la seule, l'unique, la vraie radio africaine. À demain.